France, Léonora Miano en majesté, une invitée unique pour cette grande table du vendredi. Goncourt des lycéens pour Contour du jour qui vient. Prix Femina pour la saison de l'ombre. Elle revient 2 ans après Le crépuscule du tourment avec un roman fleuve, Rouge impératrice et C'est chez Grasset. Une fable passionnelle et politique qui nous projette dans un continent africain unifié où les femmes ont enfin la part belle. Amour, masculin, féminin, écriture, ensemble nous reviendrons sur ce qui fait fiction et qu'on transposerait bien à la réalité justement qui nous rattrapera elle à partir de 12h55 puisqu'elle se dit elle-même, la romancière, l'écrivaine, avoir été rattrapée par ses obsessions politiques, les nouveaux nationalismes. On en reparlera donc dans la deuxième partie de la Grande Table. Pour l'heure, il est 12h02 sur France Culture. Bienvenue à vous, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Bonjour Léonora Miano.
Bonjour Olivia Gesbert.
Mais votre première obsession, c'est l'amour, et on le sent aussi dans ce roman où l'amour coule à flot. Un homme et une femme, Ilunga et Boya, deux êtres presque irréprochables. Ils sont beaux, ils sont séduisants, ils sont généreux. On vous sent presque amoureuse de vos personnages.
Je les adore, je sais déjà que je vais les reprendre.
C'est vrai?
Oui.
Connaîtront une suite?
Ah oui, absolument. Je ne suis pas censée le dire. Mais oui, je m'y suis beaucoup attachée, donc, et je pense que les lecteurs auront envie de savoir ce qu'ils deviennent, eux et les autres.
En attendant, on fait connaissance avec eux.
Faisons
dans
connaissance.
Rouge impératrice. Place à l'amour et place à une forme de réconciliation entre les êtres dans ce nouveau roman sous forme de saga afro-futuriste. Qu'est-ce que l'amour? Ce que l'amour pour vous ne devrait pas être, en tout cas, vous l'écrivez, une association de malfaiteurs contraints de se salir mutuellement pour se tenir l'un l'autre à tout jamais. L'amour vrai, c'est celui pour vous qui permet de s'accomplir, Léonora Miano.
Je pense qu'il faut s'être accompli avant. Je pense que il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un. Et donc il faut se réaliser, il faut se connaître, il faut être une personne entière qui ne cherche pas forcément le compagnon. C'est pas la moitié, c'est pas notre moitié. C'est un alter ego. C'est justement un compagnon. C'est pas quelqu'un qui nous complète. On est déjà complet. Et j'espère que Boya et Ilunga sont des êtres complets au moment où ils se rencontrent et que c'est pour ça qu'il se passe quelque chose entre eux absolument intense et magnifique. Ils ne viennent pas se soigner l'un par l'autre. Ils viennent s'apporter l'un à l'autre. Ce n'est pas la même chose.
Boya, vous l'avez imaginé à l'image de qui?
Alors, à l'image de qui? Est-ce que je peux répondre à cette question? Est-ce que je peux dire la vérité? Disons que c'est un peu mon... C'est pas exactement la personne que je m'imagine être, mais qu'elle me ressemble un peu, parce que c'est une intellectuelle, une femme qui pense, qui a un métier, qui fait quelque chose qui pour elle est important, et qui en même temps a une spiritualité intense et ce besoin de spiritualité. Donc c'est quelqu'un qui vit sur deux registres différents, qui dans nos sociétés actuelles sont considérés comme pas totalement antagonistes, mais quand même qui se marient pas de façon évidente. Et elle a trouvé une harmonie entre les deux, et j'espère atteindre cette harmonie. En la fabriquant, je peux observer l'éventuel fonctionnement des deux polarités ensemble. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient sur la durée? Parce que effectivement, elles peuvent parfois se nuire, ces deux polarités-là, se contrecarrer puissamment.
Ça, vous l'avez éprouvé, la rencontre un peu conflictuelle de ces deux registres, de ces deux polarités en vous aussi, de cette à la fois de la rationalité, des croyances. Que mettez-vous derrière le terme de spiritualité?
Je mets
c'est inexplicable.
Je mets l'appréhension métaphysique du monde, l'acceptation de l'irrationnel, l'irrationnel d'une part, d'irrationnel au moins. Est-ce qu'elles sont en conflit en moi? Je dirais pas exactement, parce que quand on écrit des romans, justement, on a le droit de les mêler. Je fais beaucoup ça et je laisse les gens dire que c'est du réalisme magique et pas vraiment ma manière de voir le monde, alors que c'est ma manière de voir le monde. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est que depuis longtemps, je me rêve parfois grande prêtresse, fondatrice de communauté, et que je ne vois pas encore comment faire écrivain en même temps. Voilà. Donc, je n'ai pas encore trouvé le moyen d'être chamane et écrivain véritablement dans la vie de tous les jours.
Ou vous l'avez trouvé dans le roman.
Voilà, peut-être dans pas le dans roman, la vie, c'est
parce que là, vous créez communauté.
Dans le
très
roman,
clairement.
Oui, je fais ça tout le temps.
Oui, vous inventez même des continents dans celui-ci, Rouge Impératrice. Vous disiez qu'il faut déjà s'être un peu connu, rencontrer soi-même pour pouvoir entrer en contact avec l'autre. Il se décrit.
De façon saine, en
oui.
tout cas.
Là, ils se décrivent quand même où ils ressentent l'un et l'autre, vos deux personnages, Ilunga et Boya, ce petit quelque chose qu'on appelle être l'âme sœur, ce petit quelque chose qui fait la différence et qui se reconnaît, paraît-il, parfois au premier coup d'œil. C'est en tout cas comme ça que le chante Dame Shirley Bassey.
Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style that shows me I don't want to leave him now. You know I believe in
ce something que chante Shirley Bassey, avez-vous appris, vous, à le reconnaître, Léonora Miano?
Oui, je pense maintenant, oui, ouais. J'ai appris.
Quelle voix avait, quelle voix elle
quelle
a,
voix
cette femme, hein, Shirley Bassey?
Ah, extraordinaire, chanteuse de mon enfance, qui a bercé mon enfance, je l'aime beaucoup.
Et pas uniquement avec Goldfinger.
Ah non, pas uniquement avec Goldfinger, avec des albums entiers, et puis c'était une époque où justement on écoutait des albums de musique entiers en famille, on s'asseyait, on faisait vraiment ça, on écoutait la musique.
Mmh. Chez vous, l'amour, Léonora Miano, se niche dans la rencontre des corps, dans la sensualité des mouvements. On sent que vous avez pris plaisir à écrire aussi la rencontre amoureuse et charnelle entre vos deux personnages.
Absolument.
Ilunga voulait une nuit qui en pèse 40 dans leurs souvenirs, écrivez-vous. Et la suite ?
Davantage même, car il y avait eu 4 fois 10 soirs et autant de matins jusqu'à leur retrouvaille. La prenant par la main, il l'entraîna dans la salle de bain, sous la douche. Elle acheva de le déshabiller en hochant la tête. Tu trouves qu'on est trop chaud? La première fois, elle prenait d'habitude une part active aux ébats. Cette méthode lui permettant de faire connaître ses préférences à son partenaire. Le talent de l'amant pouvait se révéler insuffisant si d'aventure on le laissait procéder à sa guise. Bien des hommes, convaincus de l'existence d'une femme générique, ne se donnaient pas la peine d'étudier le cas particulier qui se présentait à eux. Cependant, le regard franc d'Ilunga, son attention aux réactions de son corps tandis qu'il la touchait sous l'eau, l'incitait à penser qu'il composait mentalement une symphonie pour la voix de celle qu'il tenait dans ses bras. Elle nota aussi qu'il se passait de savon, cherchant à faire un peu tomber la fièvre sans que soient perdues les conséquences olfactives de leur embrasement. Une fois séchée, la peau de chacun retrouverait toute sa richesse, toute la richesse de son langage. Boya laissa faire. Alors, il n'y eut pas de baiser, pas encore, ni de caresses trop appuyées, pas encore. La chambre d'Ilunga était une pièce élégante, avec son mobilier ancien de bois brut, ses murs grège foncé, le jeté de lit dont la couleur rappelait un ciel pluvieux. Elle n'eut pas le temps d'apprécier tout cela. Il lui fut en revanche donné de découvrir l'habileté de l'homme, la longue exploration qu'il souhaitait leur offrir. Les lèvres sur les siennes, il la pria de retenir ses cris, de préférer un temps l'implosion à la déflagration. C'était la première fois qu'il lui était suggéré de se concentrer sur son plaisir, sans chercher à l'extérioriser, sans se soucier de stimuler celui de l'homme. La première fois aussi que chaque millimètre de sa peau atteignait ce point d'incandescence sous la caresse d'un amant.
Merci, Léonore Amiano. Vous prenez le temps dans votre lecture, mais vos personnages prennent aussi le temps d'apprendre à se connaître. Est-ce que le secret n'est pas là, justement, la femme générique dans le regard des hommes, la femme générique aussi pour les femmes elles-mêmes parfois, avec l'importance qu'on renie, qu'on n'entend pas suffisamment aujourd'hui de prendre son temps, celui de connaître son corps. Est-ce que vous pensez que le corps féminin est encore trop souvent objet de fantasmes et qu'on devrait tous en passer par cette réappropriation ?
Oui, objet de fantasmes, très certainement. Est-ce qu'il faut même parler de réappropriation ? Je pense qu'il faut parler simplement de connaissance de soi, que quand on grandit, on doit apprendre ça. On devrait nous enseigner, voilà, le fonctionnement de notre corps, de tous ses états, d'aimer ce corps, de le comprendre, de connaître ce qui lui fait plaisir dans toutes les possibilités qu'il y a dans le plaisir, de savoir se donner du plaisir à soi-même aussi, que ce ne soit pas interdit, que ce ne soit pas tabou. Parce que je pense que ça commence par là, et que d'ailleurs on le fait très spontanément quand on est petite fille. On se donne du plaisir, et puis parfois quelqu'un vous surprend et vous dit que c'est mal. On ne devrait pas dire que c'est mal. On devrait peut-être dire que ça nous appartient et qu'on ne doit pas être vu, peut-être, mais pas que c'est mal. En tout cas, oui, toutes ces choses sont très importantes, et de connaître profondément son intimité, même de la regarder, si on peut la regarder. Moi, j'ai fait ça très tôt, de regarder mes parties intimes dans un miroir, de m'accroupir pour regarder comment c'était, savoir ce que voyaient les garçons, en fait, ce qu'ils verraient. Et peu de filles le font, je crois, s'autorisent à le faire, n'y pensent pas nécessairement. Enfin, il faut que toutes ces choses soient naturelles.
Pas des plaisirs coupables.
Pas voilà, pas de honte.
Une ouverture,
pas...
une curiosité mal... voilà, qui soit jugée malsaine.
Ce
certains.
N'est pas sale, c'est votre corps. Ce n'est pas sale, c'est votre corps, c'est vous. Donc, connaître tout ça, les odeurs, tout.
C'est pour ça que dans ce roman, vous bâtissez aussi une maison des femmes où l'on entre, nous, dans les pas de votre héroïne, Boya, ce lieu où les femmes seraient initiées aussi à leur corps, à leur féminité, à la maturité par leurs aînés, par d'autres femmes. Vous écrivez cette phrase qui est quand même très forte. Le monde émerge des ténèbres quand s'ouvre le sexe de la femme.
Et je ne l'ai pas inventée, cette phrase. Cette phrase, elle existe vraiment dans des rituels féminins au sud du Cameroun. Et je l'ai trouvée magnifique. Je n'ai pas non plus inventé ce rituel de défloration où l'hymen est offert à des femmes plus âgées plutôt qu'au premier amant homme. Et oui, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué. Je pense que la partie de moi qui aime tellement donc la métaphysique, les savoirs féminins ancestraux, tout ça, et qui a plutôt grandi dans un environnement urbain très occidentalisé, mais dans le mauvais sens du terme, parce que l'Occident aussi a connu ces pratiques. Bon, le monde entier, les femmes du monde entier les ont eues en réalité. Hein. Ben, ça m'a manqué d'appartenir à une société de femmes où j'aurais été initiée par des femmes à des savoirs féminins avant d'entrer dans le monde. J'aurais beaucoup aimé ça, être entourée par des femmes. J'ai toujours eu l'impression, moi, quand j'étais petite, lorsque je voyais des femmes adultes assemblées, qu'il y avait entre elles des secrets et qu'elles ne les transmettaient pas. D'autant que nous étions élevés, mes sœurs et moi, en français, et que souvent notre mère et ses sœurs, par exemple, se parlaient en langue douala, qu'elles ne nous parlaient pas à nous. Donc ça accentuait d'autant ce sentiment d'être exclu de quelque chose, d'un savoir qui ne nous a jamais été transmis. Et donc aujourd'hui, lorsqu'elle lit mes livres, ma mère est étonnée de mes connaissances, mais ça m'a tellement manqué que j'ai cherché partout. Et donc, évidemment, j'ai fini par trouver ce qu'on ne m'avait pas dit.
C'est aussi une transmission positive. On parle beaucoup depuis le début de la vague MeToo de cette libération de la parole, qui est importante aussi, mais qui est peut-être plus
qui
politique
crucial.
Aussi, sur apprendre à dire oui, apprendre à dire non, sur l'importance du consentement.
Oui, c'est très compliqué parfois, cette question du consentement. Et j'ai pas de parole intelligente là-dessus parce que j'ai trop connu dans ma vie l'agression sexuelle trop tôt et trop longtemps. C'est-à-dire que je n'ai pas été violée à plusieurs reprises, je l'ai été fréquemment et durablement. Donc je ne peux pas parler de ces questions de manière... simplement théorique. Je crois qu'il y a trop de sensibilité lorsque j'aborde ce sujet et que j'ai même le sentiment qu'on peut donc effectivement essayer d'avoir une parole théorique, mais qu'en réalité, pour celles qui l'ont vécu, ça reste toujours quelque chose de très unique et personnel. Et donc, quand ça vous est arrivé plusieurs fois, justement, vous connaissez différents états de consentement ou de non-consentement. Et par exemple, est-ce qu'on peut dire que si ça vous arrive fréquemment, si par exemple vous êtes aux prises avec, disons, un tortionnaire qui est sous votre toit, le jour où vous ne vous débattez pas, ça ne veut pas dire que vous consentez. Simplement, vous êtes fatigué. Et vous allez laisser passer ça. Mais si vous allez au tribunal, on dira, elle ne s'est pas débattue. On dira, voilà, c'est ce qu'on dira. C'est très, très compliqué, cette question. Et il faut vraiment travailler sur ces choses. Et peut-être qu'on n'aura jamais de réponse tout à fait satisfaisante. Et qu'on n'aura jamais de réponse tout à fait qui marche pour tout le monde. Et qu'il faudra accepter d'entendre toujours... lorsqu'on écoute les femmes, mais aussi les hommes ou les petits garçons qui sont agressés sexuellement, accepter que ce soit toujours une parole unique, un cas unique qui se présente à nous et le traiter comme tel. Toujours entendre la sensibilité particulière qui vient. Et ça, je ne sais pas quelle formation on peut donner aux gens pour faire ça. C'est compliqué, mais il faudra y arriver. C'est très important parce que... le viol est quelque chose qui peut être destructeur. On y survit. Je suis là et je ne me vis pas comme une victime, je ne me présente pas comme telle. Mais ça peut faire des ravages et chez tous ceux qui y survivent, bien ou moins bien, ça laisse des traces indélébiles. C'est quelque chose qui vous marque à vie.
Et on entend... quand vous dites, Léonora Miano, trop de sensibilité, on entend aussi un trop de culpabilité qui revient parfois aussi
chez certaines,
dans la
parce
voix
que,
des femmes. Ouais.
Oui, mais parce que souvent d'ailleurs, les femmes sont les premières à vous culpabiliser. Quand vous êtes une jeune fille, on vous dira, mais pourquoi es-tu allée chez ce garçon toute seule? Pourquoi y es-tu allée habillée de la sorte? Que cherchais-tu? C'est toujours toi qui cherches, ce n'est pas le garçon qui a fait, c'est toujours ta faute. Et alors, La jeune fille a le malheur d'être enceinte, alors c'est vraiment quelque chose. Et on ne parlera jamais du garçon, très rarement. Et la parole la plus dure émanera souvent de femmes. Mais quand on grandit, on comprend aussi que ces femmes, lorsqu'elles s'adressent à nous, eh ben c'est pas à nous qu'elles parlent. Elles parlent à la jeune fille qu'elles ont été, qui a fait les mêmes choses. Elles parlent à leur propre solitude à ce moment-là. Elles parlent... à l'incompréhension qu'elles ont aussi dû affronter, au rejet. Voilà, c'est une chaîne infinie, hein, d'incompréhension entre femmes et de difficultés à se consoler mutuellement, à dire simplement, moi aussi, je suis passée par là, et puis, tu sais, c'est grave peut-être, mais on s'en sort. Juste de dire ça à une jeune fille, ce serait très important.
France Culture, il est midi 21 avec Léonora Miano, notre invitée à l'occasion de la parution de son roman Rouge. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30. Musique.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC.
Chacun s'engage avec ses armes. Elle, la musique, c'est son moyen d'expression et elle le fait avec grandeur. La chanteuse Lana Del Rey qui revient avec Doing Time, un titre made in California, extrait de son 6e et nouvel album Dans les bacs aujourd'hui, intitulé cet album Norman Fucking Rockwell. Hein, c'était un titre donc et un album qui se veut aussi en colère. Elle sera de passage en Europe, Lana Del Rey, début 2020, et elle sera en concert à l'Accor Hotel Arena de Paris le 23 février.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
La puissance du féminin avec vous, Léonora Miano, en écrivant. Est-ce que vous ressentez ce sentiment de puissance?
Ah oui, c'est même ce qui m'a poussé à continuer à écrire, d'avoir ressenti ce sentiment de puissance très tôt.
Quelles sont aujourd'hui encore vos femmes puissantes, celles que vous admirez parce que se dégagent de ce qu'elles sont ou de ce qu'elles font cette force, cette lumière que vous avez envie de communiquer aux autres maintenant en écrivant?
Il y en a beaucoup et je suis en train de concevoir un projet pour leur rendre hommage. Alors ce sont souvent des musiciennes, Abby Lincoln, qui est une chanteuse de jazz, mais qui n'est pas une chanteuse comme tout le monde, parce que elle a aussi été une grande activiste, mais surtout, comme chanteuse, Abby Lincoln ne s'est pas limitée à interpréter le répertoire des standards comme les autres. Elle a eu besoin d'écrire ses chansons, de dire sa parole, de dire sa vision du monde, et elle a fait ça brillamment. Je comprends pas qu'elles soient si peu reprises. On a du mal à interpréter ces chansons apparemment. Mais elle a laissé un répertoire unique, qui est une parole féminine, une vision du monde à part, une belle sensibilité, une très jolie écriture, beaucoup de force et d'intelligence. J'aime beaucoup, évidemment, Toni Morrison, parce qu'elle fait partie des personnes qui m'ont sauvé la peau. Cet univers littéraire tellement intense, âpre, l'autorisation, la permission qu'elle s'est donnée de transgresser les tabous de sa communauté, Toni Morrison, quand elle publie son premier roman, L'œil le plus bleu, on l'accuse de donner une mauvaise image de l'Amérique noire. Parce qu'elle décrit ça, l'inceste. Hein, une petite fille, son personnage est une toute jeune fille qui est sexuellement agressée par son père. Et donc évidemment, c'est souvent le cas. Hein, quand les gens sont en situation de minorité, ils attendent que quiconque donne quelque chose qui ressemble à une peinture d'eux, le fasse de façon à les rendre glorieux et toujours très beaux et magnifiques. Or, l'humanité, c'est aussi le crime et l'abjection. Et lorsque nous voulons seulement être beaux et magnifiques, on se soustrait un peu, on s'extrait un peu de l'humanité peut-être. Et donc, il y en a beaucoup d'autres. La poétesse Sonia Sanchez, ce sont souvent des artistes, je m'aperçois. Nina Simone me touche. Je vois une petite fille qui a jamais fini de grandir, alors que le monde entier ne voit qu'une activiste. Moi, je vois les blessures de la petite fille qu'on n'a pas trouvée jolie, qui voulait être pianiste mais qui n'a pas pu l'être, et cette espèce de blessure qu'elle a tenté de façon malhabile de guérir et qui n'a jamais guéri, mais qui a peut-être donné cette intensité à son chant et à sa manière, sa manière d'occuper l'espace. Enfin, elles sont tellement nombreuses, il faudrait que je fasse une liste.
Mais d'ailleurs, c'est ton projet.
Oui, c'est un projet.
D'une autre, de leur rendre hommage, vous le disiez. Voilà. Toni Morrison, prix Nobel de littérature, disparu cet été, dont on entendra la voix tout à l'heure en ouverture de la deuxième partie de la Grande Table avec vous, Léonore Amiano. Elle nous parlera de son envie de suggérer un paradis dont personne ne serait exclu. C'était dans son roman Paradise, paradis en français. Et on en reparlera ensemble. Parce que créer un paradis, c'est un peu aussi ce que vous avez fait avec ce roman dont vous venez nous parler aujourd'hui, Léonora Miano, Rouge Impératrice chez Grasset. Dire aussi que on a parlé du féminin, mais que vous n'opposez pas le féminin au masculin. D'autres présupposés sur les hommes noirs aussi en France, vous y avez réfléchi entouré d'un collectif. C'était dans un essai paru il y a peu, Marianne et le garçon noir, en réaction à l'affaire Adama Traoré. Vous restez avec nous. France Culture, il est presque midi et demi.